Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Un pied en Roumanie, un autre dans les législatives. Sur les pistes d'Orly, au pied de l'avion présidentiel, Emmanuel Macron demande aux électeurs une majorité solide. Dimanche prochain, il invoque l'intérêt supérieur de la nation. Riposte immédiate de Jean-Luc Mélenchon, la pénurie et le chaos. C'est vous, le leader de la NUPES offensif, ce soir en meeting à Toulouse. Vous l'entendrez. Fuir le soleil avant la mi-juin, cette vague de chaleur n'a jamais été aussi précoce. La barre des 30 degrés sera franchie demain presque partout. On frôlera 40 dans le sud. Détails en fin de journal et reportage avec des candidats au bac. Ils ont dû fuir la chaleur pour réviser leur cours de philo. Un séisme sur la planète foot. Les Girondins de Bordeaux rétrogradés en 3e division après une décision cette fois du gendarme financier du foot. Explication à suivre. L'invité politique à 5 jours du second tour des législatives, Laurent Jacobelli à 22h20. Porte-parole du RN, candidat en Moselle. Et enfin, on découvrira les gros titres des journaux demain matin.
Europe 1.
Cette fois donc, il est en première ligne. Emmanuel Macron a choisi sa stratégie contre la NUPES, l'Union de la gauche, qui menace sa majorité absolue à l'Assemblée dans ses législatives. L'image se veut marquante. Cet après-midi, sur le tarmac d'Orly, pupitre présidentiel, Emmanuel Macron au pied de l'avion qui va l'emmener en Roumanie. Déclaration d'un président en campagne.
Quelques jours avant le second tour des élections législatives et avant de quitter le sol national, je tenais à m'adresser à vous. La guerre en Ukraine, en effet, sème partout le désordre. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir.
Alors certes, Emmanuel Macron était toujours sur le sol français lorsqu'il a lancé cet appel, mais tout de même, Jacques Sorey, c'est très inhabituel de la part d'un chef de l'État en général et d'Emmanuel Macron en particulier que d'évoquer la politique intérieure à 2 minutes d'un déplacement aux frontières de l'Ukraine en guerre.
Oui, le décalage est saisissant. Emmanuel Macron debout au pupitre devant l'avion présidentiel, réacteur allumé, prêt à décoller. L'impression d'une improvisation, ou presque. Avant cette prise de parole, l'Élysée avait prévenu que le chef de l'État souhaitait expliquer son voyage à venir, mais jamais l'entourage du président n'avait évoqué le fait qu'Emmanuel Macron allait concentrer son message sur les législatives. Mais Ukraine et élections ne sont pas tant dissociées aux yeux du locataire de l'Élysée. Emmanuel Macron fait le lien entre les deux. Vous venez de l'entendre, rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial, assure-t-il. Donner de la gravité à ce moment, avec entre les lignes ce message implicite, c'est moi ou le chaos. C'est la stratégie du chef de l'État pour tenter de mobiliser les électeurs autour de son camp, exactement la même que lors de la présidentielle, au risque de donner l'impression d'une certaine panique, du moins d'un manque de sérénité à 5 jours du second tour.
Merci Jacques Sorey. De fait, l'écologiste Julien Bayou, l'un des chefs de file de la NUPES, voit dans cette séquence de l'aéroport d'Orly un président qui perd ses nerfs. « C'est moi ou le chaos ?» dit en substance Emmanuel Macron. « Le chaos, c'est vous !» a répliqué aussitôt Jean-Luc Mélenchon, le leader de la NUPES qui était en meeting ce soir à Toulouse pour soutenir les candidats de l'Union de la gauche et pour riposter au chef de l'État.
« Son bateau coule, Macron prend l'avion. » Et certains disent qu'il s'enfuit. C'est pas vrai. Moi, je crois pas. En réalité, il nous méprise. Avant de partir, il nous a fait un sketch sur le tarmac. Alors, ça n'existe pas, ça d'habitude dans la tradition française. Il faut donc un peu décrypter. C'est la mode à la Trump. Trump était spécialiste de ça. Avant de monter dans l'avion, il insultait tout le monde et puis il montait dans l'avion. Et Trump était son copain. Je veux juste espérer que le président français n'aille pas prendre toutes les mauvaises habitudes de M. Trump, notamment face à un mauvais résultat électoral.
Alors, entre-temps, Emmanuel Macron a changé de costume. Ce n'est plus le président en campagne, le président du tarmac d'Orly qui s'exprime ce soir, mais le chef des armées. Emmanuel Macron passe la soirée avec les 500 soldats français déployés en Roumanie sur la base de l'OTAN de Constanza. Vous suivez ce déplacement pour Europe 1. William Molinier, le président a passé les troupes en revue avant de dîner ce soir avec les militaires dans la base.
Oui, 500 soldats français du bataillon Fer de Lance de l'OTAN sont présents dans la région depuis l'attaque russe en Ukraine. Ils seront relevés la semaine prochaine par d'autres forces françaises. À la descente de l'avion, Emmanuel Macron salue leur engagement.
Je veux remercier l'ensemble des unités qui se sont si vite mobilisées et les unités qui sont en train de prendre la relève pour pouvoir ainsi nous protéger collectivement. Nul ne sait dire ce que les prochaines semaines et les prochains mois donneront. Nous ferons tout pour continuer à stopper l'effort de guerre russe. Mais de manière durable, nous aurons besoin de nous protéger, de dissuader, d'être présents. Vous avez été à cet égard des pionniers de ces déploiements.
Ce bataillon passera à 1 000 000 d'hommes d'ici un an avec de nouveaux blindés, du matériel lourd et des chars Leclerc. Demain, le président se rend en Moldavie, inquiète elle aussi pour sa sécurité. Et avant de rentrer à Paris, il se dessinerait, selon la presse allemande, une visite hautement symbolique à Kiev avec l'Italien Mario Draghi, l'Allemand Olaf Scholz et le Roumain Klaus Iohannis. De son côté, l'Elysée ne confirme pas ce déplacement. S'il se rendra bien en Ukraine, en temps utile, selon les mots de son entourage, aucun agenda n'est encore acté.
William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Roumanie. L'Ukraine affirme n'avoir reçu que 10% des armes qu'elle réclame aux Occidentaux. Kiev demande des délais de livraison clairs face à une situation très difficile, en particulier à Severodonetsk, dans l'Est, où l'armée russe propose un couloir humanitaire pour évacuer des civils. Pour le président ukrainien Zelensky, l'issue de cette bataille du Donbass donnera une indication sur la suite de la guerre avec la Russie.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Cette fois, la première vague de chaleur de l'année n'aura même pas attendu l'été pour se manifester. Et oui, nous sommes toujours au printemps et pourtant, le thermomètre s'affole. 43 degrés à l'ombre aujourd'hui dans le sud de l'Espagne. C'est 10 degrés de trop. Cette bouffée de chaleur a déjà atteint le sud de la France. Elle s'étendra au nord avant le week-end. Louis Salé, on n'avait jamais connu cela aussi tôt dans l'année.
Oui, effectivement, le thermomètre a déjà bien grimpé, hein, jusqu'à 38 degrés aujourd'hui près de Toulouse. On s'attend à ce que la moitié sud du pays dépasse les 40 degrés d'ici samedi, en particulier en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Le centre du pays pourrait dépasser les 35 degrés et la Bretagne les 30 degrés, des records historiques. Donc, c'est la vague de chaleur la plus précoce jamais observée en France. Alerte Mathieu Sorel, il est climatologue à Météo France.
Cette vague de chaleur va être remarquable de par sa précocité, puisque le précédent record de précocité a été établi en 2017 et 2005, où les vagues de chaleur commençaient au 18 juin. La moyenne des températures France devrait atteindre la valeur de 27 degrés, ce qui deviendrait la valeur la plus élevée le plus tôt dans la saison. Il n'aura jamais fait aussi chaud aussi tôt dans la saison en France.
Attention, pour la caractériser, cette vague n'est pas un dôme, mais une plume de chaleur. C'est ce qu'explique le prévisionniste Olivier Proust.
C'est une situation très dynamique. On n'a pas ce couvercle anticyclonique qui nous fait cuire dessous pendant des jours. Là, c'est plutôt, on passe la main sur le gaz, le feu, sur la flamme. Là, on va avoir 2-3 jours de température excessive, remarquablement précoce dans leur intensité. Et ensuite, ça va passer. C'est une situation très dynamique qui n'est pas, pour l'instant, installée comme un dôme de chaleur.
Voilà, et cet épisode prendra fin dimanche avec l'arrivée d'orages.
Eh bien, ils seront bienvenus, ces orages. Merci, Louis Salé. Alors, en attendant, on fait comment pour se rafraîchir lorsqu'en plus, il faut faire chauffer les neurones? On pense à tous les candidats du bac, évidemment. Les épreuves du bac pro ont commencé ce mardi et demain, plus de 500 000 lycéens passent la philo. À Toulouse, 37 degrés à l'ombre aujourd'hui, le soleil est devenu un ennemi. Mais quand on révise la philo, on reste forcément philosophe. Reportage Benjamin Péter.
Épicure, selon lui, il faut privilégier les plaisirs stables, qu'il appelle les plaisirs catastématiques.
Thibaut s'est trouvé un petit coin à l'ombre pour réviser sa fiche sur le bonheur. Lui et Chloé sont venus à la bibliothèque municipale pour la fraîcheur et pour le calme.
Dans la bibliothèque, il fait assez frais, donc ça va. Là, on sort pour réviser, parce qu'il ne faut pas faire de bruit dedans.
Et puis on est entre nous, du coup, on peut s'aider.
À quelques heures de l'épreuve, Margot, elle, commence à franchement paniquer.
On est en retard, vraiment. vraiment, il me reste 10 notions à faire.
Elle aussi préfère réviser ici.
Et c'est là où je venais pour réviser le bac de français aussi, et ouais. C'est vrai que ça booste, il fait vraiment frais. Enfin, des fois, il fait même très très frais. La dernière fois, la clé était à 17. C'est cool comme cadre aussi, je trouve. Ouais.
Mais quitte à choisir le cadre, d'autres ont opté pour les espaces verts, histoire de réviser à la fraîche. Andrea et Daniel se sont installés sous un grand pin dans le parc du Grand Rond.
Oui, là, il fait super bon, c'est magnifique de réviser comme ça. À l'ombre, c'est bien à côté de la fontaine. Mais demain, il va faire super chaud, ça va être compliqué.
Dans une salle 4 heures, avec la chaleur et tout, enfin, c'est pas évident de réfléchir, de se mettre. Mais bon, il faut que t'es dedans.
Alors, pour éviter la surchauffe, demain, tous sont prévus double ration d'eau et peut-être quelques compotes à boire pour reprendre des forces tout en s'hydratant. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Des mesures ont été prises pour permettre aux candidats au bac de plancher dans les meilleures conditions possibles malgré la chaleur. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, a donné des instructions.
Nous sommes mobilisés via les rectorats qui ont reçu instruction, les chefs d'établissement également, dans le cadre d'un plan canicule autour de principes qui sont des principes de bon sens. Aération des salles de cours, distribution d'eau pour les personnels et pour les élèves, et puis, autant que possible, des élèves placés dans des salles ou en tout cas dans des lieux ombragés. Normalement, ces dispositions devraient permettre de passer la semaine dans les meilleures conditions, mais nous sommes très attentifs, via les rectorats, à la situation.
Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Elisabeth Borne assure que tout sera en place demain pour protéger les personnes les plus vulnérables à cette vague de chaleur. La première ministre a réuni cet après-midi les préfets de région et les patrons des agences régionales de santé. Elle veut aussi s'attaquer à la renaturation des villes. Il s'agit en fait de créer davantage d'îlots de fraîcheur en ville. Les canicules étant appelées à se multiplier et à s'intensifier, cette renaturation s'appuiera sur un fonds de 500 millions d'euros. Damien Abad est visé par une nouvelle accusation de tentative de viol. Mediapart publie le témoignage d'une femme qui dit avoir été agressée sexuellement en 2010 par l'actuel ministre des Solidarités. Damien Abad, qui brigue également un nouveau mandat de député dans l'Ain, réfute catégoriquement cette accusation. Il pointe une motivation politique. Allons maintenant au procès du violeur de la Sambre aux Assises du Nord. Dino Scala comparaît pour des viols et des agressions sexuelles sur 56 victimes. Et pour la première fois, eh bien certaines sont venues aujourd'hui témoigner à la barre. Cet après-midi, Lionel Gougelot, vous avez justement entendu le récit terrifiant de l'une d'entre elles.
Ah oui, c'est aujourd'hui une dame âgée et fragile qui se présente à la barre. À l'époque de son agression, elle avait 45 ans. Ce jour-là, 6h du matin, elle s'apprête à prendre son service dans une école de Maubeuge. Son agresseur surgit par derrière, l'attrape par le bras, lui serre le cou, la traîne dans le local poubelle. Il la plaque contre le mur et tente de lui déboutonner son pantalon. J'ai crié au secours, je lui ai dit que j'avais des enfants, raconte-t-elle, la gorge nouée. Alors l'agresseur s'arrête et prend la fuite. Une agression qui a bousillé ma vie, conclut la vieille dame en larmes, qui pendant des années a caché ce drame à ses enfants. Signe d'un traumatisme toujours profond selon son avocate Fanny Bruyère.
C'était tabou de toute façon de parler des histoires des agressions sexuelles et du retentissement que ça pouvait procurer et encore plus auprès de son conjoint ou même de ses enfants. Lorsqu'on subit des agressions sexuelles, et bien forcément la vie de femme en prend un coup. On a peur des relations sexuelles qui pourraient se reproduire. Donc derrière les agissements d'un homme, il y a toute une vie qui a été bousillée comme elle a pu si bien le dire.
Cette tentative de viol fait partie des dossiers que Dino Scala conteste. D'ailleurs, l'endroit ne me dit rien, précise-t-il d'un air détaché en regardant les photos du dossier d'enquête. Le mode opératoire est pourtant semblable aux autres faits pour lesquels il est poursuivi. Alors peut-il évoluer? Les parties civiles peuvent l'espérer. Quelques minutes auparavant, il a reconnu devant la cour une agression qu'il avait pourtant niée tout au long de l'instruction.
Lionel Gougelot à la cour d'assises de Douai pour Europe 1. Les ennuis s'accumulent pour les Girondins de Bordeaux. Le club est déjà relégué sur le plan sportif en Ligue 2. Et bien cette fois, c'est sa situation financière très dégradée qui le plombe. La sanction vient de tomber. La DNCG, le gendarme financier du foot, rétrograde Bordeaux en National 1, la troisième division, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est un véritable séisme dans le football français. Les Girondins, club mythique, avec ses 6 titres de champion de France, ses 4 Coupes de France, sa grande histoire, ses joueurs de légende comme Zidane, Lizarazu, Gaëtan Huard, voit son avenir s'assombrir encore plus. Bordeaux en 3e division, c'est une catastrophe, s'indigne Alain Giresse, autre ancien joueur emblématique du club aux scapulaires.
Il y a eu toute une organisation de destruction de ce club, là, depuis la reprise des Américains jusqu'à maintenant, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant, je crois que si on voulait qu'il élimine, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Enfin, on se demande comment le club peut sortir de cette situation.
Depuis la vente des Girondins par M6, c'est la descente aux enfers. Après un fonds d'investissement américain, l'ancien président de Lille, Gérard Lopez, aux méthodes controversées, est arrivé aux commandes, mais avec des moyens limités. Le plan mis en place ces dernières semaines, apport de 10 millions d'euros et vente de joueurs, n'a pas convaincu le gendarme financier. Bordeaux, qui dans un communiqué fait part de sa consternation et qualifie la décision de brutale, annonce faire appel de cette sanction.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. La surprise, Serena Williams en tennis. Près d'un an après son dernier match écourté par une blessure, eh bien la championne américaine annonce son retour dans 2 semaines tout juste à Wimbledon. À 40 ans, Serena Williams a vendu la mèche à ses 15 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a posté une photo à peine énigmatique, tout le monde a compris. Enfin, le groupe de pop coréenne BTS annonce une pause dans sa carrière. Les 7 membres de ce boys band se disent épuisés par le rythme de production exigé, les tournées. Ils ont moins de 30 ans et ils sont tous superstars depuis l'âge de 20 ans. Les BTS expliquent qu'ils traversent une période difficile. Ils vont chacun se consacrer maintenant à leur projet solo. Le temps pour demain, mercredi, Marlène Duré. Il a déjà fait très chaud hein, aujourd'hui dans le sud-ouest et dans la vallée du Rhône. Près de 38 degrés en Ardèche. La vague de chaleur s'installe.
Oui Alexandre, à Gros-Pierre précisément, les 38 degrés, enfin 37 degrés 9 relevés. Donc en Ardèche, la chaleur s'accentue d'une part et elle continue sa progression vers le nord d'autre part. Donc au niveau des températures, comptez 23 à 27 quand on est au bord de la Manche, hein, du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au nord de la Bretagne, parfois un petit peu moins. Mais en général, les maxis vont dépasser les 30 degrés, fera 31 à Paris, 32 à Nantes, 33 à Mulhouse, Bourges, Grenoble et Limoges, 34 à Lyon, 35 dans le Midi Toulousain, 36 à Agen. Ça baisse un petit peu en Gironde, dans le nord des Landes, dans le sud du Poitou, 33 degrés pour demain, mais ça va remonter d'ici à jeudi, enfin, jeudi avec 38 degrés. Alors justement, si vous le voulez bien, on va continuer sur le reste de la semaine. Jeudi, sur la moitié sud, il fera une moyenne de 35 degrés jusqu'à 40 localement du côté du Gard, Vaucluse, Drôme, Hérault et 38-39 entre Bordeaux et Toulouse. Sur la moitié nord, une moyenne de 30 avec 35-36 pour les plus hautes valeurs. On va les trouver du côté de la Loire-Atlantique, la Vendée ou encore dans la Vienne. Vendredi, ce qu'il faut retenir, c'est que les températures vont monter d'un cran dans le sud-ouest avec là aussi des 40 degrés sans doute atteints sur la quasi-totalité de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Sur la moitié nord, une moyenne de 35 avec localement 36, 37, 38, plutôt du côté de la Touraine et dans l'intérieur de la Bretagne. Et puis samedi, la moitié nord devrait atteindre son pic de chaleur avec une moyenne globale de 36. Vous savez qu'à Paris, il pourrait faire au moins 37. D'autres modèles annoncent 40-42.
Oui.
Il y a pas mal d'incertitudes encore. Et dimanche, eh bien, les orages vont venir balayer tout ça. Vous savez qu'on a de l'air frais qui va arriver de l'Atlantique. Au contact de l'air chaud, vous savez ce que ça produit ? Conflit de masse d'air, boum, des orages.
Bon, en tout cas, d'ici là, c'est les places sous les parasols et sous les arbres qui vont devenir les plus chers, on a bien compris. Côté ciel, Marlène, du soleil et déjà des orages.
Oui, alors des orages, effectivement, on va en trouver dans le centre-est demain. D'abord des averses isolées, dès la fin de nuit d'ailleurs, tiens, on peut en avoir entre l'Auvergne, le sud de la Bourgogne, l'est du Limousin. Ça va se déplacer vers la région lyonnaise, les Alpes du Nord. Partout ailleurs, ce sera du soleil. Alors, quelques risques orageux également du côté des Pyrénées et sur la montagne Corse. Donc voilà, globalement ensoleillé, mais avec quand même un risque orageux sur la partie centre-est du pays pour demain.
Merci Marlène Duré. On va marquer une courte pause sur Europe 1. Dans un instant, c'est Top à Wall Street et notre invité politique, Laurent Jacobelli, porte-parole du RN et candidat aux législatives en Moselle. À tout de suite.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street qui tente difficilement de relever la tête hein, en attendant le verdict demain de la Banque Centrale Américaine.
C'est pénible, oui. Le Dow Jones recule encore. Bon, c'est moins la catastrophe qu'hier. Moins 0,49%. Une petite baisse, le Dow Jones 30 366 points. Et le Nasdaq reprend même 0,18%. Une légère hausse, 10 828 points. La Réserve fédérale, oui, devrait remonter ses taux demain. Sans doute de 0,75 points pour tenter de calmer l'inflation qui galope. Et les valeurs de technologie, du coup, se reprennent un petit peu. Tesla remonte de 2%, 662,67$. Ça remonte sur Microsoft, plus 0,9%. Intel, plus 0,4%. Apple, plus 0,7% à 132,76$. IBM, plus 0,4%. Ce sont de petites progressions, de petits sursauts, mais ça fait quand même du bien. Twitter, plus 0,5%. La bonne surprise, c'est Oracle, quand même, qui grimpe de 10% après le succès de la migration de son offre vers le cloud. Oracle grimpe ce soir en clôture de plus de 10%. Le pétrole est toujours aussi cher, $120 le baril. Exxon en profite pour prendre encore 0,2%, $96,10. Et puis l'euro reste faible, 1,04 face au dollar.
La bourse de Paris, elle en est à sa 6e séance de baisse consécutive.
Ça continue, oui, sous les 6000 points. Moins 1,2%, 5 949 points au plus bas depuis le mois de mars dernier. Les dégâts sont de nouveau importants du côté des dossiers à risque. Atos chute de 23%, 14,40 € après l'annonce de son projet de scission. Un plan estimé à 1,6 milliard d'euros avec à la clé le départ de son patron, Rodolphe Belmer, qui sera resté peu de temps puisqu'il est arrivé seulement en début d'année. Donc Atos en forte baisse de 23% ce soir. Et puis on a aussi Air France KLM, moins 13% après son augmentation de capital pour 2,2 milliards d'euros. Du côté des valeurs industrielles, on a Nexans qui recule de 6%, on a Arkema qui perd 5%, Soitec 4%, Legrand aussi 4% de baisse.
Exception du jour, Didier, c'est le secteur pétrolier qui s'est de nouveau distingué.
Oui, assez logiquement, le secteur de l'énergie au sens large, le pétrole avec un baril à $120, eh bien, ça donne Morel et Prom en hausse de 3,8%, Vallourec qui grimpe encore d'1,6% à 12 €, et puis Total Energy qui monte d'1,3% ce soir, 54,08 €. Les autres places financières sont en baisse, moins 0,9% sur le DAX à Francfort, ça baisse partout, Bruxelles moins 0,9%, Madrid moins 1,3%, Milan moins 0,3% et le CAC 40 donc moins 1,2%, 5 949 points.
Merci Didier Hamot.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
L'invité politique sur Europe 1, nous sommes à 5 jours maintenant du second tour des élections législatives. Bonsoir Laurent Jacobelli.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Rassemblement National, candidat aux législatives dans la 8e circonscription de Moselle, où vous êtes d'ailleurs arrivé en tête au premier tour. Vous êtes donc bien placé pour faire partie peut-être des députés RN de la prochaine Assemblée. Marine Le Pen disait ce soir encore, elle espère en avoir 100 ou plus pour ce second tour. Les candidats RN se maintiennent dans 208 circonscriptions. C'est déjà une victoire en soi pour vous ?
Oui, vous avez raison de le dire, c'est un score historique pour le Rassemblement National, c'est notre meilleur score jamais obtenu à des élections législatives, c'est d'autant plus remarquable que les autres partis se sont effondrés ou ont disparu depuis les dernières législatives. Vous savez, on parle beaucoup de la NUPES, cette coalition improbable. Eh bien, quand on fait le total des partis de gauche en 2017 et qu'on regarde la NUPES aujourd'hui, eh bien, ils n'ont pas bougé d'un iota. Nous sommes le seul parti en progression et j'ai envie de dire, du coup, le seul parti d'opposition crédible. Marine Le Pen a raison de mettre la jauge à 100 députés. C'est un objectif que nous pouvons atteindre pour faire un groupe fort à l'Assemblée nationale et faire barrage à la triste politique d'Emmanuel Macron.
Alors cette percée, elle fait dire à Marine Le Pen que le Rassemblement National est le premier parti de France. Pardonnez-moi, mais est-ce que c'est pas plutôt l'abstention le premier parti de France, Laurent Jacobelli ? Plus d'un Français sur deux qui ne s'est pas déplacé.
Alors si on regarde effectivement les partis politiques constitués, nous sommes le seul parti à être en lice avec notre étiquette, le RN, et nous verrons bien ce qui se passera à l'Assemblée nationale, mais honnêtement, par rapport à des coalitions de 5 à 10 partis, eh bien, nous serons plus forts. Vous avez raison, il y a un problème avec l'abstention. Cette abstention qui fait que certains de nos concitoyens laissent les autres décider pour eux. Mais attention, abstention, ça rime avec Macron, abstention, ça rime avec Mélenchon. Pas grand-chose de bien à en attendre. L'abstention, c'est laisser la retraite à 65 ans s'installer, c'est laisser le nombre de migrants, légaux et clandestins croître, c'est laisser l'insécurité prospérer. Alors il faut aller voter et voter pour la seule force d'opposition, le Rassemblement National.
Mmh. Avant de s'envoler pour la Roumanie, tout à l'heure, c'était à Orly, Emmanuel Macron a appelé, face à cette abstention, à un sursaut républicain. Ce sont les jeunes électeurs en particulier qui boudent les urnes, Laurent Jacobelli.
Oui, écoutez, Emmanuel Macron sent probablement le vent tourner, donc il semble s'inquiéter. Il regarde un peu ce qui se passe en France, c'est pas si fréquent. Peut-être les jeunes ne vont-ils pas aux urnes parce qu'ils ont été désabusés par des hommes politiques sans foi ni loi, comme Emmanuel Macron, qui leur avait promis qu'il prendrait soin du pays, qu'il prendrait soin de leur avenir, qu'il gouvernerait d'une manière différente. Eh bien, il a utilisé des vieilles méthodes éculées, il a envoyé le pays dans le mur et il est en train de leur dessiner un avenir assez sombre si une force d'opposition résolue n'arrive pas à l'Assemblée nationale. Et donc, on peut malheureusement le comprendre. Moi, je dis aux jeunes, ne désespérez pas, ce pays, c'est le vôtre. Cet avenir, c'est le vôtre. La France est un beau pays, il y a des talents, il y a des richesses. On peut à nouveau faire quelque chose de bien avec cette grande nation. Alors mobilisez-vous et votez, votez dimanche prochain et évidemment, votez pour le Rassemblement national.
Mmh. Emmanuel Macron a pris un ton très, très solennel. Il appelle justement les électeurs à lui donner une majorité solide dimanche prochain. Je le rappelle, tout cela sur le tarmac d'Orly avant de s'envoler pour la Roumanie. Comment vous percevez cette séquence du président de la République, Laurent Jacobelli?
La symbolique est très forte. Hein. Il lance un appel au secours parce que grosso modo, hein, il veut sauver sa majorité. Et on voit bien qu'il y a une vraie opportunité de faire en sorte qu'il n'ait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale juste avant de prendre l'avion et de faire ce qu'il préfère, c'est-à-dire d'aller à l'étranger. Le président Emmanuel Macron a délaissé la France et quand il s'en est occupé, il a pris de mauvaises mesures. Il est probablement en train de réaliser qu'il va en payer un prix fort. Ce sera le prix des urnes qui, on peut l'espérer, ne lui laissera pas les pleins pouvoirs. En tout cas, c'est pour ça que nous, candidats du Rassemblement national, nous battons.
Je vois que Marine Le Pen ne donne pas de consigne de vote à ses sympathisants pour tous les duels de second tour qui auront lieu entre le camp présidentiel et la NUPES. C'est du nini. Elle dit d'un côté c'est le déconstructeur d'en haut, de l'autre le déconstructeur d'en bas. Vous renvoyez le camp présidentiel et la NUPES dos à dos au Rassemblement national.
Oui, bien sûr. Bien sûr. D'abord, nous respectons trop les électeurs pour imaginer qu'ils ne voteront pas selon leurs propres convictions. Donc les consignes de vote valent ce qu'elles valent. Et puis vous savez... Emmanuel Macron a commencé à dissoudre la France. Les 5 ans qui viennent, si on ne met pas le haut là, il continuera son œuvre de déconstruction. Mélenchon, lui, ce serait en 2 mois. Donc ce sont 2 dangers à éviter. On ne peut pas choisir entre 2 périls. La seule chose qu'on peut faire, c'est les éviter. Vous savez, Macron-Mélenchon, sont la courte échelle. Hein. Macron a besoin de Mélenchon comme opposant et Mélenchon a besoin de Macron comme punching ball. Vous savez, on n'est pas dupe quand on voit que des candidats République En Marche appellent à voter pour des candidats mélenchonistes et inversement. On voit bien que tout ça est un jeu de dupes, sans aucun jeu de mots d'ailleurs, qui montre que les convictions passent au second plan pour le leader maximo d'opérette qui est M. Mélenchon.
J'entends encore Marine Le Pen dire que Jean-Luc Mélenchon a contribué à faire élire Emmanuel Macron. S'il n'avait pas appelé à voter pour lui, Emmanuel Macron n'aurait pas été élu. Mais que je sache, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais appelé à voter pour Emmanuel Macron, Laurent Jacobelli.
Alors quand il y a 2 candidats et que vous appelez à ne pas voter pour le 2e candidat, ça veut dire qu'implicitement vous avez appelé à voter pour le 1er. Oui,
bah, il reste beaucoup d'options, il reste le vote blanc, il reste l'abstention.
Très bien, mais puisque c'est un pourcentage à la fin qui est calculé entre 2 candidats, M. Mélenchon est probablement trop rusé pour imaginer que ça n'était pas un appel à voter pour le président sortant de l'époque, M. Macron. Donc M. Mélenchon aujourd'hui a beau jeu de dire qu'il ne veut pas de la retraite à 65 ans, c'est lui qui a mis sur le trône l'homme qui va demain peut-être voter cette retraite à 65 ans si on n'y prend pas garde. M. Mélenchon a fait la courte échelle à Emmanuel Macron, c'est l'idiot utile du système, c'est finalement l'outil, le hochet de M. Macron dont il se sert quand il a besoin d'une opposition virulente dans les mots mais docile dans les faits.
Merci Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Merci à vous. Vous êtes également candidat aux législatives, je le rappelle, dans la 8e circonscription de Moselle. 22h28 sur Europe 1.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Avec ce petit panorama des unes de vos quotidiens demain, mercredi, et d'abord un sujet qui va s'imposer, oui, dans toutes les conversations, très certainement, la canicule, ce soleil qui tape. Toujours plus chaud, toujours plus tôt, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. La France qui va subir dès ce mercredi des températures très élevées, jamais observées à la mi-juin. C'est un avertissement pour les climatologues. Ils le martèlent, c'est maintenant, disent-ils, qu'il faut prendre des mesures fortes contre le réchauffement climatique. Les législatives, bien sûr, et Emmanuel Macron qui dramatise l'enjeu du second tour. C'est la une du Figaro. Emmanuel Macron inquiet de n'obtenir qu'une majorité relative dans la prochaine Assemblée. Eh bien, il a appelé aujourd'hui les Français à un sursaut républicain. Étonnant appel à la mobilisation générale, juste avant de s'envoler pour une tournée de 48 heures auprès des soldats en Roumanie, puis en Moldavie, sur le tarmac à Orly. Le chef de l'État, pour tenter de reprendre la main, a dramatisé la situation parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation. Une enquête à la une de Libération, enquête sur ces tirs policiers en avril dernier au Pont-Neuf à Paris. La légitime défense discréditée, affirme Libération au terme de cette enquête qui met à mal, écrit le quotidien, la version des forces de l'ordre selon lesquelles la voiture fonçait vers le tireur lorsqu'il a fait feu tuant deux hommes. Ça s'est passé le 24 avril dernier. La Croix s'intéresse à ce que la philo dit à la jeunesse. Et oui, c'est demain l'épreuve de philo du bac pour plus de 500 000 lycéens. À l'occasion de ces épreuves, le quotidien La Croix donne la parole à trois philosophes sur des thématiques qui résonnent avec les préoccupations des jeunes. Et puis, comment Poutine organise la famine? C'est la une de l'Opinion. La Russie, géant agricole qui prend la planète en otage. Les Occidentaux n'ont rien voulu voir d'un phénomène que la guerre en Ukraine accentue. Enquête dans l'Opinion demain sur une stratégie méthodique de Poutine. 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'heure maintenant de la libre antenne et de retrouver Olivier Delacroix, rasséréné. Bonsoir Olivier.
Rasséréné.
Mais oui, rasséréné.
Ah, mais complètement.
Il n'y a pas de mauvais match de foot pour vous énerver ce
pas
soir.
Pas du tout.
Tout va bien.
Tout va bien. Enfin, il y en avait un qui m'énervait quand même.
Ah bon là,
ouais.
Mais vous cherchez aussi, c'est
oui,
ça le problème.
Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. La Hongrie qui bat l'Angleterre 3-0 chez elle. Vous auriez cru à ça, vous?
Ah mais là, vous partez dans le pointu, hein, Olivier.
Ah mais je suis dans le pointu.
Je peux pas vous suivre.
Je suis dans le pointu. Bon, tout va bien?
Mais oui, ça va.
Bon, très bien. J'entendais, c'est vrai qu'avec toutes ces élections, on parle moins de ce qui se passe tout près de chez nous, là-bas, en Ukraine. Ben et pourtant, il se passe des choses très graves en ce moment.
En fait, Emmanuel Macron, comme on en a parlé, est à la fois des deux côtés aujourd'hui. Il y a eu cette séquence effectivement législative à Orly. Et ce soir, on l'a vu aux côtés au milieu des soldats français en treillis dans cette base de l'OTAN en Roumanie, non loin de la frontière ukrainienne.
Ouais,
donc on en parle malgré tout.
Oui, on en parle, ouais. Mais c'est vrai que ça ne fait pas la une comme il y a quelques semaines, et il se passe en ce moment, je crois qu'il y a des combats qui font beaucoup de morts,
très dur,
et que ce qui se passe là-bas est très grave, et qu'il y a un moment, il va falloir, je pense hein, que ça va arriver chez nous, en fait, ça va nous toucher obligatoirement. Mais bon, on ne va pas angoisser tout le monde ce soir avec ça, mais bon, c'est quelque chose de très... qui est assez angoissant, on va dire. Mais bon, on va essayer ce soir de parler d'autre chose.
Changer les idées,
si
exactement.
Le téléphone marche aussi, parce qu'on a quelques petits problèmes de standard.
Bon.
Donc on vous retrouve de toute façon, ça c'est sûr.
Quoi qu'il arrive.
À 23h.
À tout à l'heure.